9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Mélissa Bell.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris de CNN, la chaîne d'info continue internationale, la chaîne pionnière qui a fêté ses 40 ans en juin. Vous êtes à la tête du bureau parisien depuis 2016. Vous êtes française par votre mère, d'où votre accent parfait, américaine par votre père. Vous votez dans quel pays, Mélissa Bell?
C'est gentil. Non, pas britannique par mon père. Je ne vote pas aux États-Unis. J'y ai grandi, mais je suis partie à 18 ans, mais sans la nationalité. Donc je regarde de loin, un peu comme le reste du monde, avec beaucoup d'intérêt. Mais
alors je vais faire comme Thomas Huchon. Je vais tout de suite couper cette fake news. C'est faux. Mélissa Bell n'est pas américaine, elle est franco-britannique. Mélissa, est-ce que vous avez passé la nuit devant CNN ?
Alors, je pense qu'on est tous devant CNN pour essayer de voir quels sont les résultats, puisque ça change, et puis la tournure que ça a pris, ou l'espoir des démocrates qui était de réaliser cette vague bleue qui allait nous permettre d'avoir les résultats très tôt, ouais, et de façon très décisive, ne s'est pas matérialisé. On l'a vu en Floride et au Texas, ça faisait partie de leurs espoirs pour la nuit. Alors, la Floride, dans les marges d'erreur, mais les démocrates clairement espéraient envoyer un signal fort, et ça aurait été très difficile pour Donald Trump d'avoir un chemin vers les fameux 270 grands électeurs s'il n'avait pas eu les 29 électeurs de la Floride. Donc une nuit qui se poursuit et qui risque de se poursuivre encore longtemps, puisque maintenant, c'est dans d'autres États que ça va se jouer. On attend bientôt les résultats de l'Arizona. Une grande chaîne américaine l'a déjà annoncé. Nos projections à CNN ne sont pas encore annoncées. On attend de savoir. Si c'était pris par les démocrates, ça serait important, puisque ça fait partie des États dans le sud, la fameuse Sunbelt, dans lesquels ils avaient espéré que les changements démographiques allaient les aider à faire élire Joe Biden. Donc c'est sans doute le prochain résultat qu'on attend. Mais non seulement des résultats dans d'autres états clés qui peuvent tomber beaucoup plus tard, mais la possibilité de batailles juridiques qui s'ouvrent plus nettement matin qu'on les imaginait encore hier soir.
Mélissa Bell, on voit que vous êtes la patronne de l'info. Vous m'avez fait le sommaire de cet entretien. On va entendre Xavier Yvon, correspondant d'Europe aux États-Unis, pour avoir aussi les tout derniers chiffres. Bonjour Xavier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes où? Vous êtes à New York?
Oui, à New York.
Vous êtes également dans les décomptes, dans les sondages. Vous allez nous dire si la victoire se dessine pour l'un ou l'autre. Vous avez tous les deux, Mélissa et vous, Xavier Yvon, de très très bonnes sources. À New York, est-ce que les boutiques sont barricadées avec des palissades? J'ai vu ces images, moi, à Washington ou à Atlanta, j'étais assez frappé.
Oui, c'est le cas à New York. Alors, dans plusieurs quartiers, pas loin de chez moi, à Brooklyn, là, il y a un centre commercial où effectivement, il y a des planches de bois sur les commerces. Et puis, il y a surtout sur la 5e avenue, tout autour de la Trump Tower, tous les commerces de luxe se sont barricadés. C'est vrai que ça fait une impression assez étrange. On avait vu ça après les manifestations, après la mort de George Floyd. Il y avait eu des pillages dans Manhattan et ensuite les commerces étaient barricadés. Bon, je dirais que c'est presque plus de la précaution qu'autre chose, ou de la dissuasion, parce que la nuit était très calme ici à New York. Alors, on n'a pas de vainqueur, hein, mais voilà. Mais oui, ça fait bizarre. Après, c'est une année tellement spéciale que, honnêtement, voilà.
J'aurais posé cette question à Mélissa Bell. Comment vous expliquez qu'une grande démocratie comme les États-Unis puisse craindre des émeutes au moment d'annoncer des résultats d'une élection qui est un processus, somme toute, normal, qui dure depuis plus d'un siècle, comme si on était, pardon de dire ça, comme dans un pays en voie de développement, qu'on disait avant les pays du tiers-monde? Comment c'est possible? Comment on en est arrivé là?
Non, eh bien, parce que je pense...
Allez-y.
Je pense, Philippe, pas seulement parce que le pays est plus polarisé qu'il n'a jamais été. On le sait, les républicains et les démocrates, non seulement soutiennent des camps différents, imaginent la catastrophe si les autres gagnent, mais ne s'entendent plus, vivent à peine aujourd'hui dans la même réalité. Donc, cette très profonde division, mais plus que ça encore, et ça s'est vraiment amplifié les derniers jours de campagne, un président, donc la personne la plus puissante des États-Unis, qui remet en cause la légitimité du système électoral. Ça, c'est nouveau, et c'est assez dangereux, parce que jusque-là, les conflits entre les partis avaient pu se jouer dans un cadre qui était finalement accepté et respecté par tout le monde. Ça n'est plus le cas. On a encore entendu à l'instant Donald Trump se prononcer. On s'y attendait, et c'est bien pour ça que Joe Biden s'est prononcé aussi, avant qu'on ait des résultats, ou l'un ou l'autre qui se dirigeait vers les 270. Donald Trump, pour dire que, attention, il fallait arrêter de compter les voix dans certains États, il fallait pas qu'il y ait de la triche. Or, on sait la façon dont fonctionne le système. Comme l'a dit Joe Biden, ça n'est ni à Donald Trump ni à Joe Biden de décider qui sera le prochain président des États-Unis. C'est le système qui le décide. Mais jusque-là, cette contestation du système électoral lui-même n'était pas arrivée. Et qu'est-ce que ça veut dire, Philippe? Ça veut dire que plus la nuit se poursuit, plus les décomptes se poursuivent, plus on part dans un territoire où la bataille risque de devenir judiciaire plutôt que simplement électorale, plus les partisans, surtout de Donald Trump, qui qu'il écoute, qu'il entende, qu'il le croit quand il dit que les voix qui arrivent ou qui sont comptées après minuit ne sont pas valables, ce qui est faux, plus il y a un danger de débordement dans la rue.
Alors, ce matin, je veux dire, j'étais dans mon bureau et je regardais CNN, il était 8h30 heure française, 2h30 côte est, Donald Trump a parlé, il a affirmé avoir gagné de nombreux états, la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin, entre autres, alors que le dépouillement n'est pas terminé, et voici ce qu'il a dit juste après.
This is a fraud. C'est une escroquerie dont est victime le peuple américain. Cela fait honte à notre pays. Nous étions sur le point de gagner cette élection et, franchement, on a gagné cette élection.
Et aussitôt après, le présentateur de CNN a fait du fact-checking en démentant les infos de Trump. Non, il n'a pas gagné le Wisconsin. Comment c'est possible de travailler avec quelqu'un comme ça quand on est journaliste ?
Bah, c'est-à-dire que ça a transformé un petit peu le travail des journalistes, ou en tout cas ceux qui font vraiment leur travail aux États-Unis et qui ne sont pas devenus des organes de propagande de la présidence américaine, c'est de faire constamment du fact-checking. Donc le président ouvre sa bouche et il faut tout de suite rectifier le tir par rapport à comment fonctionne véritablement le système sur le coup des votes, par exemple. Il n'a jamais été, ça n'a jamais été le cas que les votes arrêtaient d'être comptés à une certaine heure dans un certain état. Ça n'est juste pas comme ça que le système fonctionne. Et d'ailleurs, les challenges républicains sur certains États, par exemple la Pennsylvanie, dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent, ils avaient souhaité que les votes postaux qui étaient reçus après le 3 novembre ne soient pas comptés. La Cour suprême a refusé de retourner le jugement de la première Cour, qui en fait laissait en place la règle actuelle, qui était que les votes qui étaient reçus 3 jours après le 3 novembre pouvaient être comptés. Donc jusque-là, on voit des contestations juridiques qui ont déjà commencé, un président qui continue de contester le résultat, mais on s'y attendait. Notre travail de journaliste, simplement de rappeler quel est le cadre électoral, comment le système fonctionne. Jusque-là, ça n'avait pas été le boulot des journalistes, ça l'est devenu.
Et alors, NBC est même allé beaucoup plus loin parce qu'ils ont coupé la diffusion ce matin du discours de Donald Trump. Ils ont dit qu'il y a trop de fausses informations et ils ont coupé le duplex. Xavier Yvon, vous avez vu le sous-titre qu'il y a sur CNN, Nail Biter, je prononce mal, ça veut dire on se ronge les ongles. C'est quoi les scores à l'instant où on se parle, Xavier ?
Ils n'ont pas beaucoup bougé. Alors, c'est vrai que CNN n'annonce pas la victoire de Joe Biden dans l'Arizona, mais elle est annoncée notamment par l'agence AP qui fait référence dans les élections. Donc, on peut dire que l'Arizona est passé côté Biden. C'est le dernier résultat important qu'on a eu. On n'en aura pas beaucoup d'autres là dans les. On a eu le Maine aussi qui est tombé pour Biden, mais c'est pas très surprenant. On n'aura pas beaucoup d'autres résultats dans les heures qui viennent, puisque en fait le décompte a été arrêté dans les États, notamment du Midwest, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, dans les gros comtés, puisque les gens sont allés se coucher. Il est 3h48 du matin ici. Il y a des comtés dans le Wisconsin. On va reprendre le décompte demain matin à 10h. Donc là, je regarde CNN en ce moment. Effectivement, on refait les cartes en permanence pour voir ce qui peut se passer. Je vais juste revenir sur fact-checker le président américain. CNN a un très bon fact-checker qui s'appelle Daniel Dale. Il faudrait peut-être un sujet sur lui un jour parce que c'est une mitraillette. Il débriefe les discours de Trump en 5 minutes. Il liste les 150 mensonges prononcés par Trump. Mais je voudrais préciser aussi que pendant cette soirée électorale, Fox News a fait son travail de journaliste, puisque j'ai pas mal regardé Fox News, et après le discours de Trump qui annonçait « on a gagné », il y a eu sur le plateau de Fox News, immédiatement, les journalistes, notamment Chris Wallace, qui ont dit « non, il peut pas dire ça, c'est pas vrai, ce n'est pas son rôle, il va trop loin, il met une allumette sur une situation inflammable ».
Voilà, et vous les citez parce que Fox News est évidemment considéré comme un soutien de Donald Trump. Vous restez avec nous, Xavier Yvon, Mélissa Bell, on n'a pas encore parlé des sondages. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En direct avec Mélissa Bell qui dirige le bureau français de la chaîne internationale CNN, la pionnière des chaînes d'infos continues. Et puis Xavier Yvon, notre correspondant, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On parle évidemment de l'élection américaine toujours en cours, le dépouillement et la suite. Mélissa Bell, la vague bleue annoncée par les sondages, c'est-à-dire le raz-de-marée démocrate n'a pas eu lieu. Comment vous expliquez que les instituts de sondage se soient fourvoyés à ce point ? Je veux dire par là, pourquoi n'ont-ils pas appris de leurs erreurs de 2016 où la victoire de Trump s'était produite à la surprise générale, y compris de Trump lui-même.
Non, je pense qu'il faut faire une différence entre les sondages à l'échelle nationale du vote populaire et ensuite les sondages état par état. C'est vrai que les sondages à l'échelle nationale montraient que l'opinion était très favorable à Joe Biden, mais le système fait que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre. Les instituts de sondage connaissent très très bien la mécanique de l'élection américaine.
Absolument. Alors, donc justement, quand on regarde les sondages de l'opinion publique à l'échelle nationale, Joe Biden était très largement vainqueur. Prenez par exemple la Floride, dont on a déjà les résultats, ouais, on est dans la marge d'erreur. Donc pour l'instant, les sondages, on peut pas encore dire qu'ils se sont trompés. Par contre, ce qu'on peut dire sur la Floride, c'est que Donald Trump a pris un électorat nouveau parmi les latinos d'origine cubaine et vénézuélienne. C'était sans doute pas prévu, c'était parmi les espoirs des républicains, clairement. Ouais.
Je vais poser la même question à Xavier Yvon. Mélissa dit les sondages sont pas trop trompés, on annonçait une vague bleue, et là on en est à se ronger les ongles. C'est quoi votre analyse, Xavier Yvon ?
Alors, c'est un peu la même chose, c'est qu'on attend quand même encore beaucoup de résultats, donc on va attendre d'avoir les résultats notamment dans Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie pour dire que les sondages sont trompés. S'il y a une donnée sur laquelle ils se sont trompés pour l'instant, c'est sur le vote populaire, parce que ça fait des mois qu'on nous annonce que Joe Biden va avoir entre, allez, disons 6, 10, parfois 12 points d'avance au niveau national. Je sais que c'est pas là où se fait l'élection, mais c'est un indicateur sur Donald Trump. Aujourd'hui, il a un point d'avance sur Donald Trump. Et on a quasiment tout dépouillé, donc il n'aura pas les 10 points d'avance qui sont annoncés depuis des mois par les sondages américains. Donc oui, là clairement il y a eu un problème. L'analyse c'est celle qui avait été faite en 2016, hein, et moi j'ai beaucoup d'électeurs de Trump qui me l'ont dit sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle les shy Trump voters, c'est des électeurs de Trump qui n'osent pas dire qu'ils sont électeurs de Trump parce que
on a connu ça en France avec les électeurs qui vous appellent
pour faire un sondage et qui vous demandent si vous êtes pour Trump et que être pour Trump ça sous-entend être raciste ou être extrémiste, on le dit pas, voilà. Donc il y a eu encore ce phénomène qui pourtant les sondeurs avaient dit qu'ils le corrigeraient dans leurs études.
Mais on avait eu ça en France avec l'élection de Jean-Marie Le Pen présent au second tour de la présidentielle le 21 avril. Et ensuite, il y avait des correctifs qui avaient été apportés au vote Front National pour tenir compte justement de ce shy, la honte dont vous parlez. La campagne est très tendue entre les deux camps, démocrates, républicains. J'ai vu cette image, on a tous vu cette image du bus de supporters de Biden entouré sur l'autoroute de pick-up de supporters de Trump. Mélissa Bell, est-ce que la campagne est également tendue entre les médias?
Oui, je pense qu'elle est tendue entre les médias. Je pense que c'est des électorats qui regardent des chaînes différentes et qui ont une vision de la réalité très différente. Et c'est aussi ce qui est en jeu dans cette élection. Pas simplement que le président américain remet en cause le système, mais que bien sûr les partisans de part et d'autre sont regardés. Si par exemple vous avez toutes vos informations de Fox News, vous pourriez imaginer que la crise du Covid n'est absolument pas très grave aux États-Unis et que les 240 000 morts déjà comptabilisés, les 400 000 morts vers lesquels on se dirige avant le mois de février, finalement n'existent pas ou en tout cas ne sont pas très importants. Et vous avez ce clivage très important dans la population, non seulement d'un point de vue politique, mais presque dans leur vision de la réalité aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui permet d'en arriver à des scènes dont vous parlez au Texas qui étaient absolument extraordinaires. Ce bus de Joe Biden entouré, et c'est un incident d'ailleurs qui est maintenant au cœur d'une enquête de la FBI.
Ouais. Xavier Yvon, est-ce qu'il est plus difficile ou pas de travailler avec le camp Trump qu'avec le camp Biden?
Non, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez dire d'un point de vue accueil.
Oui, exactement. Une émission média, en termes de médias, est-ce que vous ne subissez pas un double rejet parce que vous êtes journaliste et on sait que Trump n'aime pas trop les journalistes? Et en plus, vous êtes un média français. Et en plus, avec un nom qui porte Europe, on peut se dire que peut-être ils n'ont pas très envie de vous parler, le camp Trump.
Alors, non, en fait, on a un accès plus facile au camp Trump pour ce qui est des événements de campagne, puisque le camp Trump n'a pas vraiment respecté les règles sanitaires de distanciation sociale, etc. pour organiser ces événements. Donc on pouvait accéder par exemple au meeting de campagne de Donald Trump assez facilement en tant que média étranger, même une radio qui n'est pas un média très important aux États-Unis, donc on a du mal parfois à se faire une petite place. En revanche, les événements de campagne du camp Biden étaient totalement verrouillés. Il y avait des pools de journalistes américains qui y avaient accès, mais nous, médias étrangers, n'avaient pas accès. Donc c'était plus difficile d'avoir accès, en tout cas à la campagne Biden qu'à la campagne Trump. Et après, pour ce qui est des supporters, en fait, nous, les correspondants étrangers, on a quand même un peu cette chance-là de ne pas être pris dans le feu du discours de Trump. On est un peu à côté.
Et il n'y a pas de passif. J'ai une toute petite dernière question pour Mélissa Bell. Je voyais hier soir sur CNN votre envoyé spécial à Houston, au Texas, avec du matériel anonymisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le logo CNN sur le micro, comme pendant les émeutes des Gilets jaunes en France. C'est devenu dangereux de s'afficher CNN.
C'est absolument. C'est ce que je voulais rajouter. Si c'est peut-être plus facile pour les médias étrangers, pour ce qui est de nos équipes de CNN, nous ne sortons pas dans les rues des États-Unis avec des étiquettes sur notre équipement, sur les caméras, comme on a l'habitude de le faire dans les médias, les chaînes de télé, souvent on affiche qui on est. On ne peut plus le faire parce qu'on peut être attaqué. On l'a vu récemment, les grands rallyes qu'a tenu Donald Trump. Bien entendu, ce sont les correspondants de CNN et surtout les plus célèbres, les Jim Acosta, etc., qui deviennent les cibles des foules qui viennent entendre Donald Trump. Et encore une fois, ça vous parle, cette énorme polarisation de la population américaine. Et il ne faut pas être étonné. Ça fait 4 ans maintenant que Donald Trump s'en prend à des médias comme CNN de façon presque obsessive. Pourquoi ? Parce qu'elles font leur travail, finalement, en ne se rangeant pas derrière lui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, et en essayant de poser les questions qui s'imposent face à un président qui manque une présidence qui manque de transparence et un président dont le style fait qu'on en est à se poser des questions sur la légitimité du système électoral le soir d'un scrutin.
Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, évidemment. Toute cette affaire, to be continued, comme on dit en anglais. Merci beaucoup, Mélissa Bell, correspondante à Paris et chef même du bureau parisien de CNN. Et puis Xavier Yvon, merci beaucoup. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On va vous retrouver tout au long de la journée sur l'antenne d'Europe pour nous faire vivre, évidemment, l'évolution des résultats. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres, évidemment. Puis on va recevoir Bertrand Chamerois pour son écran de veille. On va sourire avec son débrief. Lui aussi était devant les soirées électorales. Et puis Eva Rock pour son zapping du lendemain, très émouvant ce matin. Une star du polar, ensuite Maxime Chatham, qui vient de nous parler de son nouveau roman L'Illusion, déjà dans les meilleures ventes une semaine après sa sortie, peut-être le plus américain des écrivains français, Maxime Chatham. Et puis des indispensables 100% Amérique, un livre qu'adore Stephen King et un trio de séries pour comprendre le football américain. Rien que ça, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.